not.
Bonjour à la belle-mère, bonjour à Immacula. Il y a deux autres personnes qui sont connectées, mais je ne vois pas les noms pour l'instant. Probablement Jean-Gilbert aux amis. Bonjour Yolaine. Bonjour Pascal. Juste m'assurer que le son fonctionne. Oui, c'est parfait. J'espère que vous allez bien. On est le jeudi 28 juillet. Journée ensoleillée et chaude. Il va faire 28, mais avec le facteur humidex, on va monter au-dessus de 34. Bonjour Manon, que Dieu te bénisse. Bonjour Guy. Merci Pascal. Il y a des gens que j'ai ratés, je ne pense pas. Bonjour Marie-André. Manon souhaite une bonne journée aussi au pasteur André. Je sais que Jean est chez vous actuellement. Je ne sais pas s'il nous écoute avec toi, mais on lui souhaite une bonne journée s'il est là. Bonjour Farley, puisque maman est là, je suppose que tu es là aussi. Donc on te souhaite une bonne journée, à moins que tu ne sois au camp. Merci Marie-André. C'était intéressant pour ceux qui ont assisté à l'étude biblique d'hier soir. C'était une bonne continuation, sans qu'on l'ait prévu, de la prédication de dimanche matin. Comme quoi, il y a des calendriers que Dieu fait à notre insu et qui sont merveilleusement agencés. C'était vraiment la continuation dans deux passages complètement différents. Non prévus intentionnellement de notre part, mais Dieu avait bien fait les choses. Donc, l'enseignement du pasteur André hier soir, qui allait de pair avec la prédication de dimanche matin. Bonjour Rachel. Oh, Farley, je t'envoie des bisous aussi. Que Dieu te bénisse. J'ai hâte de te voir. Ce qui nous concerne pour ce matin, on continue donc notre étude dans 2 Timothée au chapitre 4, avec la thématique pour cette semaine de bien ou de veiller à bien s'équiper. Rachel, on salue les sœurs qui sont avec toi, la sœur Auxilia, la sœur Chantal et la sœur Mona. Toujours une joie de les savoir à l'écoute avec toi. J'ai pas vérifié si c'était l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Si vous êtes au courant qu'un de nos réguliers fête son anniversaire aujourd'hui, simplement m'en faire part. Bonjour Marie-Marthe. Alors on salue Evans, on salue sa conjointe et bébé. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à Marlène, bonjour au neveu, Léandro, soyez tous quatre bénis. Bonjour Denise, Denise de Laval, la sœur Denise Gaudreau. Merci la belle-mère. Bon matin à vous aussi Denise. Encore 3 ou 4 minutes avant qu'on ne commence officiellement. Merci Denise. Habituellement, quand vous vous connectez, il y a votre homonyme, l'autre Denise, celle de Valmorin, qui se connecte aussi avec son époux, le frère Gérard, mais là on ne les voit pas. Ils vont certainement se connecter sous peu. Encore une ou deux minutes. Juste le temps pour que vous alliez vous chercher un verre d'eau ou un café s'il est déjà prêt dans la cafetière. Indirène, bonjour. J'espère que le voyage se passe bien. Mais c'est écrit Indirène, mais ça pourrait être aussi Natacha. Hein? Donc, bonjour Indirène, bonjour Natacha. Bonjour à toute la petite famille qui sont une petite famille qui est en voyage actuellement. Nos bien-aimés nous regardent depuis l'île Maurice. Marie-Huguette, bonjour. Indirène, tu salues les parents de ma part. Salut aussi Chandia de ma part, je prie pour elle. Bon, alors la belle-mère est connectée. Le frère Frédéric, qui nous regarde depuis Abidjan. Que Dieu vous bénisse, Frédéric, et salutations à votre épouse aussi. Shalom, effectivement. J'ai eu le plaisir de voir Déborah et Étienne avec les enfants ce week-end. Ils m'ont fait la surprise d'être là. Et Yéyé, puisque c'est mon petit sobriquet auprès d'eux, Yéyé était très content. Et j'ai pris de belles photos qui sont sur mon cellulaire maintenant. Donc, j'étais très heureux de voir Déborah, Étienne, avec Adassa, Joshua et Nathan. Merci Indirène, sois bénie toi aussi. Rosie, bonjour. Ah, voilà, bon, voilà Denise qui est apparue. Bonjour Denise et Gérard, que Dieu vous bénisse. Babette, Andreas, bonjour. Merci Rosie. Merci Babette. Alors, on va prier et après ça, je fais la lecture du passage que nous étudions depuis maintenant 5 semaines. Prions. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour cette journée qui débute, merci pour la parole que tu as pour nous aujourd'hui, merci pour cette nourriture et ce breuvage spirituel que tu as préparé de toute éternité pour cette journée. Nous te demandons Seigneur d'ouvrir notre entendement, nos pensées à ta parole et que celle-ci puisse s'enraciner en nous profondément, qu'elle puisse être arrosée par ton onction, par ton esprit, et qu'elle puisse porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors bénis chacun de nos frères et nos sœurs qui sont réunis avec nous ce matin, bénis ceux qui se joindront plus tard, bénis aussi ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont connectés via le truchement des moteurs de recherche. On est heureux de les compter parmi nous et de savoir qu'une même grâce se répand maintenant même sur chacun d'entre nous et qui se répandra aussi sur ceux qui regarderont plus tard. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tu prends soin de nous et que tu es avec nous en tout instant, jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors je lis pour vous 2 Timothée au chapitre 4, du verset 6 au verset 22, puis par la suite je relirai le verset 17 qui sera la base de notre réflexion aujourd'hui. Alors 2 Timothée 4, le verset 6 nous dit: Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors je répète le verset 17 une ou deux fois pour que ça rentre bien dans nos pensées. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Une dernière fois, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Cette semaine, comme on l'a expliqué hier et avant-hier, on étudie la question de veiller à bien s'équiper. Depuis 5 semaines, on a vu différentes thématiques, on a abordé chacun des noms des personnages qui sont mentionnés ici dans ce passage. On a vu ceux qui étaient proches de Paul, qui l'entouraient alors qu'il se trouve incarcéré à Rome et qu'il fait face à la mort prochaine comme martyr. Et on a vu aussi ceux qu'il a envoyés travailler au sein des églises qu'il a fondées lors de ses voyages missionnaires. Et là, cette semaine, on étudie des choses qui sont chères à Paul et des choses avec lesquelles il s'équipe. On a vu des items tout d'abord, des objets. On a vu qu'il a demandé son manteau, il a demandé puis des livres et les parchemins. Sans rentrer dans les détails de tout ce que cela représente, on se rappelle que le manteau mettait la thématique de cette semaine. Le manteau était, dans ce cas-ci, un manteau tout particulier qui était utilisé lorsqu'il y avait de la pluie et de la tempête, le terme grec « phailones », donc un manteau qui sert en cas de tempête ou en temps de tempête. Et pour nous, c'était l'importance de veiller à se préparer aux tempêtes. Trop de chrétiens sont superstitieux, ils ne veulent pas aborder la thématique de la tempête, ne veulent pas aborder la thématique des moments difficiles en se disant c'est comme courir après le trouble, c'est appeler les choses à exister. C'est pas du tout le cas, ça c'est de la superstition. La Bible nous dit toutefois de nous armer de la pensée de souffrir. Ça veut donc dire d'être capable de s'outiller, d'être capable de se fortifier avant qu'elle n'arrive, de la pensée que oui, la souffrance pourrait venir. Et qui que nous soyons, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quelle que soit notre relation avec Dieu, nous passons tous à un moment ou à un autre par des moments difficiles. Ça serait trop triste de ne pas prendre cela en compte et d'être pris au dépourvu lorsque la tempête arrive, alors que la Bible nous montre comment bien nous préparer. Donc, un, veiller à se préparer aux tempêtes. Puis, Paul a parlé des livres et des parchemins. Les livres qui symbolisent donc les textes bibliques, les textes sacrés. Savoir, avant la tempête, bien se nourrir, pour être en forme, pour avoir un système immunitaire, entre guillemets, spirituellement adéquat, pour avoir été capable d'aller chercher tous les nutriments, toutes les vitamines spirituelles qu'on aurait besoin au moment de la tempête. Mais de surcroît à cela, Paul va dire qu'il a non seulement besoin des livres, biblion, en grec, mais aussi des parchemins, membrana en grec, qui nous parlent de ces feuilles faites à base de cuir sur lesquelles on écrivait des textes pour qu'ils perdurent dans le temps, plus longtemps en fait que les parchemins traditionnellement faits avec de la substance végétale qu'on pressait et qui pouvait effectivement se détériorer assez rapidement. Paul demandait des parchemins faits à base de cuir qu'il avait laissés à Troas chez Carpus, et ces parchemins étaient utilisés pour que Paul puisse écrire ses lettres, ses textes épistolaires aux différentes églises. Textes épistolaires veut dire tout simplement ses épîtres, donc les livres, les lettres qu'il envoyait aux différentes églises qu'il avait bâties et pour lesquelles il s'inquiétait encore aujourd'hui alors qu'il était à Rome emprisonné. Et il disait donc à Timothée, si tu m'amènes ces papiers, je vais pouvoir continuer à œuvrer. Et l'important pour nous aujourd'hui de savoir que même durant la tempête, nous devons continuer à être utiles et profitables pour le royaume de Dieu. Ne pas se stationner et attendre que la tempête passe, ne pas se cacher dans le creux d'un rocher et attendre que la tempête passe, mais continuer à œuvrer et à travailler. On se rappelle, la semaine dernière, on a étudié le nom d'Aquilas, qui veut dire aigle, et une des trois grandes caractéristiques que l'aigle avait pour le peuple juif était cette capacité à survoler la tempête, à être capable de s'élever au-dessus de la tempête pour voir la tempête de haut, s'élever au-dessus des nuages. Et pour nous, c'est un peu la même chose. Ne pas être arrêté, ne pas être distrait, ne pas être bloqué par la tempête, mais être capable de continuer notre vol, de continuer notre chemin et notre travail pour le Seigneur. Aujourd'hui, donc, on reprend le verset 17 avec trois mots importants, trois facettes de ce qui était nécessaire pour Paul. Il va dire, c'est le Seigneur qui m'a assisté, c'est le Seigneur qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie et que tous les païens l'entendissent, et c'est le Seigneur qui m'a délivré de la gueule du lion. Alors, trois choses qu'il va aller chercher auprès du Seigneur. Son assistance, sa fortification ou sa force, et sa délivrance. Trois mots importants. Assistance, le terme paristémie. Paristémie. P-A-R-I-S-T-E-M-I. Je répète, assistance, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Paristémie, P-A-R-I-S-T-E-M-I. Ça nous parle de quelque chose qui est placé juste à côté d'une autre. Para, le suffixe grec para, veut dire à côté ou juxtaposé à quelque chose. Paristémie veut dire aussi quelque chose qui est placé à portée de main. Donc, il y a une proximité avec la chose. Paristémie va vouloir dire se tenir aux côtés de quelqu'un et va même amener cette proximité à un niveau encore plus élevé lorsque paristémie, on va se rendre compte qu'il a un sens aussi de couvrir ou de recouvrir. Couvrir une chose, être si près qu'on couvre une chose, être si près qu'on recouvre une chose. Lorsque nous parlons de l'assistance ou de paristémie, la première thématique pour nous ce matin, c'est que on doit veiller à trouver notre refuge en Christ. Veiller à trouver notre refuge en Christ. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, et je pense que même la majorité, l'ensemble de nous tous, à l'occasion, lorsque les problématiques surviennent dans notre vie, comme premier réflexe, ce n'est pas toujours de nous tourner vers le Seigneur. Parfois, c'est d'essayer de trouver qui autour de nous, qui dans les gens qu'on peut connaître, qui aux gens qui sont éloignés, pourrait nous assister. Parfois même, c'est de se débrouiller par soi-même. Avant même de se tourner vers Dieu, on va essayer de se débattre, d'aller à droite, d'aller à gauche, d'avancer, de reculer, de faire le tour pour essayer de se débrouiller soi-même. Et assurément, c'est une des facettes naturelles chez l'homme. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel chez l'homme que c'est nécessairement bien. Le réflexe de l'enfant de Dieu devrait être de se tourner vers le Seigneur. Un peu comme le bébé ou l'enfant, le jeune enfant, qui est effrayé et qui, au moment de la peur, va crier maman ou va crier papa pour que maman ou papa viennent le secourir, viennent l'aider dans son moment difficile. La Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Et je pense qu'ici, ça cadre effectivement. Savoir que lorsque les moments difficiles surviennent dans notre existence, avoir ce réflexe qui devient naturel, prendre ses décisions avant que la tempête n'arrive, comme quoi lorsque le vent va se lever, lorsque la pluie va s'abattre sur moi, lorsque les ennemis vont se liguer contre moi, au lieu d'essayer de me débattre par moi-même, je vais me tourner vers le Seigneur et trouver auprès de lui refuge. Ce qui est intéressant avec Polysthémie, c'est qu'on se rend compte que le Seigneur est placé juste à nos côtés. Et vous savez que j'aime revenir sur le psaume 23, notamment le verset célèbre qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Parce que tu es avec moi. La présence de Dieu devrait nous rassurer. Savoir Dieu à nos côtés devrait nous rassurer. Je vous parle régulièrement de cette période de ma vie où j'ai été malade et je disais, mais j'ai jamais ressenti la présence de Dieu aussi fortement que dans ces moments-là. Et savoir que Dieu était là et ressentir la présence de Dieu faisait en sorte que j'avais une paix insensée jusqu'à un certain point. Une paix qui ne pouvait être expliquée telle que la parole de Dieu nous le dit, une paix qui dépasse l'entendement, mais qui venait du fait que je savais que Dieu était avec moi. Et nous devrions avoir ce réflexe lorsque la tempête arrive, au lieu de nous demander « Mais où est le Seigneur ?» Au lieu de nous demander ou de poser la question à Dieu en disant « Mais je pensais, Seigneur, que tu devais être avec moi. » Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc Dieu est effectivement à tes côtés. On n'est pas obligé de le ressentir, on n'est pas obligé de le voir en action, on n'est pas obligé de l'entendre nous parler. On doit savoir qu'il n'est pas un homme pour mentir et qu'il est donc là. Et s'il est là, ben de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Pourquoi sombrerais-je dans la terreur? Mais cette chose-là ou cet état-là, ça doit être préparé alors que tout va bien. Je dois arriver à cette conclusion que Dieu est avec moi en tout temps et en toutes circonstances. Aujourd'hui, peut-être que ça va bien dans ta vie. Peut-être que tu passes par une phase où tout est calme, où tout est serein. C'est aujourd'hui que tu dois arriver à cette conclusion comme quoi Dieu est vraiment avec toi. Pour que le jour où la tempête surviendra, parce que oui, elle arrivera un jour, tu puisses revenir à cette certitude, tu puisses te cramponner à cette certitude, voire fonder ton avenir sur cette certitude comme quoi Christ est vraiment avec toi. Donc Christ n'est pas loin, il est avec toi. Et la thématique de cette année pour l'Église qui est « Jésus est vraiment, 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 vraiment ici. » Alors si Jésus est vraiment à tes côtés, tu n'as rien à craindre parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais plus encore, on nous dit avec le terme parystémie qu'il est à portée de main. Ça veut dire que tu peux l'atteindre. Je ne me rappelle plus du cantique qui disait « Jésus est vraiment ici, que tu pourrais même le toucher. » Tu n'as qu'à étendre ta main et il est là. Je vous rappelais il y a quelques semaines, lorsque je prêchais sur cette thématique, cette prédication qu'un pasteur visiteur à l'église avait faite il y a plusieurs années. Je ne me rappelle même plus du nom de ce prédicateur. Je sais qu'il était du Québec, mais je ne me rappelle plus de son nom. Il disait, moi, dans ma relation avec Dieu, je suis un peu comme cette minuscule créature au pied de Jésus. Si minuscule que je ne peux atteindre que le pan de sa robe, le bord de sa robe. Mais je m'arrange pour saisir de ma main le bord de sa robe et je fais un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, jusqu'à ce que mon bras soit bien serré et que je ne puisse pas relâcher sa robe. Comme ça, s'il avance, j'avance. S'il arrête, j'arrête. S'il tourne à droite, je tourne à droite. S'il tourne à gauche, je tourne à gauche. Savoir que Christ est vraiment là à nos côtés. Et de surcroît, et on termine sur ce point-là, quant à trouver son refuge en Christ, le refuge que Christ veut nous donner, c'est un refuge dans lequel il nous couvre et il nous recouvre. Et ça, bien entendu, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ça vous ramène assurément dans le psaume 91, où on nous dit qu'il est comme cette mère poule qui recouvre ses poussins de ses ailes. Lorsque le danger vient à proximité des poussins, la maman vient recouvrir ses poussins de ses ailes. Lorsque la pluie vient frapper, les poussins se réfugient sous les ailes de la maman pour obtenir le refuge, la sécurité, la chaleur et rester au sec. Pour nous, ce devrait être la même chose. Nous devrions avoir ce réflexe de venir nous cacher, de venir nous protéger sous les ailes de notre Seigneur. Donc, veillez à trouver refuge en Christ. La première chose, donc, l'assistance de Christ, trouver son refuge, trouver notre refuge, et y aller même plus personnellement, trouver mon refuge en Christ et nulle part ailleurs. Deuxième point qui nous est mentionné dans le verset 17, Paul va dire, c'est le Seigneur qui m'a assisté, c'est lui qui m'a fortifié. Le terme fortifié ou fortification ou force, c'est le terme endynamou. Endynamou, donc E-N-D-Y-N-A-M-O-O. Je répète toujours pour ceux qui prennent des notes, et je sais que vous êtes plusieurs à le faire. Endynamou pour fortification, donc E-N-D-Y-N-A-M-O-O. Et ça, ça nous parle d'être fort, d'être doté d'une force, d'être renforcé, de recevoir de la force, d'être fortifié ou de voir sa force augmenter. Et il y a deux autres termes qu'on va attendre quelques instants avant de parler. Ici, on parle donc d'un processus à travers lequel le Seigneur développe en nous de la force ou déverse en nous de la force. Quand il dit « le Seigneur m'a fortifié », le terme « fortifié » veut dire que je n'étais pas fort au départ et je suis devenu fort. Il me manquait des forces et j'ai reçu les forces ou j'ai développé les forces qui étaient nécessaires. Et dans notre cas, on sait bien entendu que la force ne vient pas de nous, que notre puissance n'est pas de nous. La puissance qu'on a naturellement chez nous, elle est futile. Elle est vacillante et face aux tempêtes de cette vie, elle est bien faible. Toutefois, la force qui nous vient de Dieu nous permet d'être puissants et de tout faire. La Bible nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, si effectivement je reçois de Christ et je veille à aller chercher en Christ ma force, je puis donc faire face à tout ce qui vient devant moi, que ce soit des tempêtes, que ce soit des périodes d'aridité, que ce soit des périodes de guerre, que ce soit de l'adversité au travail, à la maison, dans le voisinage, peu importe ce qui va survenir, la force que je vais tirer de Christ va me permettre de tenir ferme. Donc recevoir de Christ notre force. On a trop ce réflexe d'essayer de se développer une certaine musculature par soi. Assurément, prier fait du bien, lire la parole de Dieu fait du bien, louer Dieu fait du bien, lire la parole, donc on l'a dit, jeûner fait du bien, adorer Dieu fait du bien, passer du temps dans la présence de Dieu fait du bien, mais certains regardent cela comme étant de l'exercice corporel dans lequel plus je fais ça, plus je me fortifie. Le principe est vrai, mais pas l'explication. En fait, plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus la force de Dieu et la présence de Dieu m'habitent et plus je deviens fort. Plus je suis une éponge à cette présence de Dieu, plus la force de Dieu m'habite. Plus je me tiens avec le Seigneur, plus la force de Dieu vient remplacer mes propres forces, mes propres talents, mes propres capacités. Alors ici, pour nous ce matin, en deuxième point, c'est donc de savoir ou de veiller à trouver en Christ notre force. Savoir que sans lui, je ne peux rien. Que ce soit une évidence et une certitude. Sans Christ, je ne peux rien faire. Que je le sache et que j'en fasse le constat définitif, afin que je ne perde pas de temps à essayer de m'arranger tout seul. Au lieu d'essayer de me dépêtrer, de me sortir du pétrin par moi-même, que j'ai ce premier réflexe de trouver non seulement mon refuge en Christ, mais de trouver aussi auprès de Christ la force qui m'est nécessaire. Ta connaissance, ta sagesse, ton intelligence, tes talents, tes aptitudes personnelles ne servent à rien lorsque la tempête arrive. Du moins, ça ne sert à rien comparativement à ce que tu pourrais tirer de la force qui vient de Christ. Alors pourquoi essayer de te dépêtrer par toi-même? Pourquoi essayer, comme premier réflexe, de compter sur toi-même? C'est très vaniteux, c'est très futile, et en bout de ligne, tu sais que ce n'est pas efficace. Tu es fort par celui qui se tient à tes côtés. Tu es fort par celui qui te fortifie. Tu es rendu capable de faire des choses par celui qui te fortifie. Trop souvent, des gens commencent à travailler pour le Seigneur, et si au départ, ils savent que tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils font viennent de Dieu, on dirait qu'à un moment donné, avec le temps, ils oublient la chose et ils commencent à penser que la chose vient d'eux-mêmes, parce qu'ils ont assez lu, parce qu'ils ont assez étudié, parce qu'ils ont assez passé de temps à mémoriser des versets, parce qu'ils ont assez passé de temps à creuser la parole, qu'à un moment donné, il semble que maintenant ils soient assez forts. Sais-tu que Dieu peut enlever ces capacités, cette mémoire, cette force personnelle que tu as en un claquement de doigts? En un instant, toutes tes forces peuvent t'abandonner. Et parfois, le Seigneur nous amène dans des situations où nous n'avons d'autre choix que de compter sur lui. Encore une fois, quand j'étais malade, les gens disaient « oui, il faut se battre contre le cancer ». Je ne sais pas ce que veut dire « se battre contre le cancer ». Moi, je prenais des médicaments qu'on me donnait, j'allais au rendez-vous qu'on me donnait. Celui qui se battait pour moi, c'était Jésus. Moi, j'étais juste au rendez-vous qu'on me fixait et je faisais simplement ce qu'on me disait de faire. Point à la ligne. Celui qui se battait, c'était Jésus. Il y a des gens qui disent « ouais, il faut avoir la pensée positive. Oui, la maladie va être vaincue. Oui, tu vas sortir guéri. Tu dois visualiser la chose. » Ça encore, c'est de la superstition. Mes yeux étaient fixés sur Jésus et ma victoire n'était pas sur le fait que j'allais être guéri ou pas. C'est pas ça qui allait qualifier et quantifier ma victoire. Ma victoire était de savoir que peu importe ce qui se passe, Jésus est au contrôle. Et pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout aussi une victoire de passer dans l'éternité via la maladie que de rester ici sur terre via la guérison. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus grandiose que l'autre. Dans les deux cas, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors, trouver notre force pour passer à travers la maladie, dans mon cas, c'était effectivement d'être dans la présence rapprochée de Christ. Je disais que Ndinamo avait aussi un autre sens, deux autres termes que je voulais développer avec vous. Ndinamo, fortifié, va vouloir dire aussi être décidé et être déterminé. La force que Dieu nous donne au-delà de la capacité à affronter les moments difficiles, c'est aussi une conviction profonde qui s'empare de nous. Comme quoi Christ est au contrôle. Comme quoi Christ est plus fort que cette maladie. Comme quoi Christ est plus fort que tous les ennemis qui viennent. Comme quoi Christ est plus fort que cette tempête qui s'approche ou qui s'abat sur moi. La Bible nous dit que lorsque nous ne sommes pas décidés, convaincus, Lorsque nous ne sommes pas attachés, nous sommes des hommes qui sont emportés par le vent ou par tout vent de changement, par toute mode. Et la Bible nous dit que nous sommes donc des hommes irrésolus. Le manque de maturité en Christ qui fait que on croit, puis on croit pas, puis on croit, puis on croit pas, puis je crois, puis je doute, puis je crois, puis je doute, à un moment donné, ce va-et-vient doit s'arrêter. Et dans la force indynamo que nous trouvons de Christ, nous sommes amenés à être des hommes, des femmes de conviction, des hommes et des femmes déterminés. Paul est en prison, faisant face à la mort. Il sait que la mort arrive. Il dit à Timothée, « Ouais, moi, j'ai fini ma course. Ma course s'arrête bientôt. Dépêche-toi à venir parce que je ne sais pas combien il me reste de temps. Par contre, je sais qu'on va me tuer. » Malgré tout, Paul dit, « Je veux être efficace. » Malgré tout, Paul dit, « Je veux laisser quelque chose aux églises. Je veux continuer jusqu'au dernier instant à être profitable pour mon Seigneur. Voilà pourquoi tu dois m'amener des parchemins. » C'était un homme de conviction. C'était un homme décidé. On le voit lors de son arrestation avec Silas, battu, enchaîné dans un cachot, après avoir eu le dos lacéré par les coups de fouet. Le soir venu, qu'est-ce que Paul et Silas sont en train de faire dans le cachot, dans la prison? Ils sont en train de louer Dieu. Ils auraient pu se morfondre sur eux-mêmes. Ils auraient pu dire, ah, on a assez souffert, aujourd'hui on prend une pause et on s'arrête. Non, ils étaient encore convaincus que Christ était tout-puissant, que Dieu était au contrôle et qu'il méritait encore une fois toute la gloire. Et ils étaient là en train de louer Dieu. Ils ne faisaient pas semblant. Ils n'étaient pas tout simplement des êtres pieux. Ils avaient cette conviction que même dans la tempête, Dieu était avec eux. Assurément, les histoires de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego leur revenaient à l'esprit. Je suis convaincu que Paul était là dans cette prison en se disant, hey, ils auraient pu nous envoyer dans une fournaise ardente et on aurait assurément expérimenté ce que les trois compagnons de Daniel ont expérimenté en ayant ce quatrième qui a l'apparence d'un fils de Dieu à leur côté. Paul savait. Paul avait cette conviction que même après ses coups, même avec le dos ensanglanté, Christ était avec eux, présent dans la prison. Ils étaient convaincus, décidés, déterminés. Dernier point pour ce matin, je me dépêche, je sais qu'on a dépassé. À la fin du verset, il dit « Et j'ai été délivré de la gueule du lion ». La troisième chose que Paul va trouver en Christ, après avoir trouvé son refuge en Christ, trouvé sa force en Christ, la délivrance, le terme riomai, R-H-Y-O-M-A-I, je répète, riomai, R-H-Y-O-M-A-I, qui veut dire secours, donc attirer un, je l'explique d'abord, secours, donc trouver son secours en Christ. Trouver notre délivrance en Christ. Ne pas chercher à droite et à gauche d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours? David va régler la chose. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et là, vous allez dire, oui, mais on aimerait savoir à travers qui le Seigneur va nous donner secours. Peu importe. Peu importe le moyen, peu importe la personne, peu importe le canal à travers lequel va venir le secours, ce que je sais, c'est que mon secours ne peut venir que d'un endroit et il me vient de l'Éternel. Veillez à trouver son secours en Christ. Secours ici, Riomai, va parler de, oui, secourir, délivrer, va parler aussi d'attirer à soi. Le secours de Dieu est encore une fois de nous rapprocher de lui, de nous greffer à lui. Mais le secours de l'Éternel veut aussi dire, Riomai, veut non seulement parler du secours, mais de celui aussi qui secourt. Et qui est celui qui te secourt? Christ. Voilà pourquoi David va dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Même si mon problème vient dans le monde spirituel, dans les cieux, Dieu a créé les cieux et la terre, il est capable de répondre à toute problématique d'ordre spirituel, immatériel. Si la problématique est de cette terre a été faite par l'Éternel. Il sait donc comment toute chose doit fonctionner. Dieu a la réponse pour tous les problèmes matériels et immatériels. Dieu a la réponse pour tous les problèmes tangibles et intangibles. Dieu a la réponse pour tous les problèmes, de quelque sorte que ce soit, de quelque forme qu'ils prennent, de quelque apparence qu'ils aient. Dieu a la réponse. Dieu a le secours, Dieu a la délivrance. Il est celui qui délivre encore aujourd'hui. En fait, nous devrions retourner à ce psaume 121 et se joindre à David en disant effectivement frère David ou effectivement roi David ou effectivement David, effectivement le secours ne peut nous venir que d'un endroit. De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on doit trouver en Christ notre refuge. Courir vers Christ, se réfugier sous ses ailes. On a vu qu'on devait veiller à trouver en Christ notre force. Non pas dans nos propres capacités, non pas non plus dans la capacité des gens qui sont autour de nous, mais trouver notre force en Christ. Parce que toute force de cette terre, toute force qui ne provient pas de Christ est futile et limitée, alors que la force de Christ est toute puissante. Et enfin, trouver notre délivrance, trouver notre secours en Christ. La tempête arrive et tu sais que ton bateau sera fortifié parce que ton bateau appartient à Christ. Tu tombes à l'eau et tu sais que tu ne te noieras pas parce que Dieu va te donner la capacité de nager, ou Dieu va envoyer la bouée qui est nécessaire, ou Dieu va assécher la mer s'il doit le faire. Peu importe, nous traverserons parce qu'il nous a dit que nous passons de l'autre bord. Alors prions. Seigneur, merci de ce rappel. Merci Seigneur de cette exhortation qui nous ramène là où nous devons être. Sois, Seigneur, de veiller à trouver en toi notre refuge, notre force et notre secours. Trop souvent, Seigneur, on tente de se débrouiller tout seul. On tente de se dépêtrer tout seul, de sortir du pétrin par nous-mêmes. Un peu par orgueil, parce qu'on ne veut pas dépendre de qui que ce soit. Mais ce faisant, on passe à côté de la bénédiction de te voir agir en notre faveur. À notre égard. Alors Seigneur, je veux devant toi tout simplement m'écraser au sol. Je veux devant toi, Seigneur, simplement m'agenouiller à tes pieds, me coucher devant toi, Seigneur, pour que toi tu prennes toute la gloire. Je veux m'abaisser comme Jean-Baptiste le disait, afin que toi tu puisses t'élever. Seigneur, je ne veux plus compter sur mes propres habiletés, sur mes propres force, sur ma propre connaissance, sur ma propre sagesse, sur mon expérience bien limitée. Je veux fixer mes yeux vers toi et peu importe quand la tempête va arriver, je veux me rappeler en qui j'ai cru et me rappeler de retourner auprès de toi, trouver mon refuge, trouver ma force et trouver mon secours. Merci Seigneur ce matin d'être le refuge, la force et le secours de ma sœur. Merci ce matin, Seigneur, d'être encore une fois le refuge, la force et le secours de mon frère. Et que ta paix, Seigneur, nous envahisse dans nos pensées, dans notre être, dans chacune des cellules de notre corps, dans notre vie tout entière. Cette paix qui dépasse l'entendement et qui vient tout simplement en sachant qui est à nos côtés et qui nous couvre de ses ailes. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, majestueux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve donc demain matin, vendredi, pour notre dernière bénédiction matinale. Demain matin, on étudiera le verset 22. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que le Seigneur soit avec vous, ou que la grâce soit avec vous. Les deux choses qu'on va étudier demain matin. Encore un enseignement qui sera riche pour nous tous. D'ici là, allez dans la présence de Dieu, soyez remplis de sa paix et rappelez-vous en toute chose, le secours ne nous vient que de Christ. Le secours qui perdure, le secours qui dure pour l'éternité, ne peut venir que de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis, bonne journée à tous.